Chapitre 4. Aventure d'un mendiant. Pantwitch avait à peine prononcé les derniers mots de cette sage et pieuse doctrine qui termine le chapitre précédent que les deux voyageurs arrivèrent à un chemin en croix où ils trouvèrent un pauvre boiteux couvert de haillons qui leur demanda l'aumône. Pantwitch le repoussa avec beaucoup de dureté en lui disant que chaque paroisse devait avoir soin de ses pauvres. Jones alors éclata de rire et demanda à Pantwitch s'il n'avait pas honte de n'avoir aucune charité dans le cœur quand il avait tant de charité à la bouche. « Votre religion, lui dit-il, vous sert seulement à excuser vos fautes, mais ne vous excite aucunement à la vertu. Un homme qui est réellement chrétien peut-il s'abstenir de soulager un de ses frères dans une situation aussi misérable ? Et en même temps mettant la main à la poche, il donna un shilling au pauvre malheureux. « Monsieur, dit le mendiant après l'avoir remercié, j'ai dans ma poche une chose curieuse que j'ai trouvée à 2000 d'ici, s'il vous faisait plaisir de l'acheter. Je ne me hasarderai pas de la faire voir à tout le monde, mais comme vous êtes un gentilhomme si bon et si charitable pour les pauvres, vous ne soupçonnerez pas un homme d'être un voleur, par cela seul qu'il est pauvre. » Il tira alors de sa poche un petit portefeuille à filets d'or et le remit entre les mains de Jones. Jones l'ouvrit aussitôt, et devinez, lecteur, ce qu'il éprouva en voyant à la première page les mots « Sophie Weston » écrits de sa belle main. Il n'eut pas plus tôt lu ce nom qu'il le pressa contre ses lèvres et ne put s'empêcher, malgré les spectateurs, de se livrer aux transports les plus extravagants. Mais peut-être ces transports-là même lui firent-ils oublier qu'il n'était pas seul. Tandis que Jones baisait et dévorait en quelque sorte ce portefeuille, il en tomba à terre un morceau de papier que Partridge ramassa et remit à Jones, qui aperçut aussitôt que c'était un billet de banque. C'était le même que Weston avait donné à sa fille le soir qui précéda son départ. Il était de 100 livres sterling, et il n'y a pas un juif qui n'eût cru faire une bonne affaire en l'achetant à 5 shillings de perte. Les yeux de Partridge pétillèrent de joie en apprenant cette nouvelle, que Jones proclama sur le champ à haute voix. Il en fut ainsi, quoiqu'avec quelques différences, de ceux du pauvre qui avait trouvé le portefeuille et qui, par principe d'honnêteté, j'espère, n'avait pas cru devoir l'ouvrir. Mais ce ne serait pas nous-mêmes agir honnêtement avec le lecteur si nous omettions de l'instruire d'un fait qui peut être ici de quelque importance, c'est que cet homme ne savait pas lire. Jones, qui n'avait ressenti d'abord qu'une joie aussi pure que vive à l'ouverture du portefeuille, éprouva quelque chagrin de cette nouvelle découverte. Son imagination lui suggéra aussitôt que celle à qui le billet appartenait pourrait peut-être en avoir besoin avant qu'il eût pu la rejoindre pour le lui remettre. Il informa alors celui qui l'avait trouvé qu'il connaissait la dame à qui le portefeuille appartenait et qu'il allait faire tous ses efforts pour la retrouver le plus tôt possible et le lui rendre. Ce portefeuille était le dernier présent que Mrs. Weston eût fait à sa nièce. Il avait coûté 25 shillings, ayant été acheté chez un fameux tabletier. Mais la valeur réelle de l'argent doré contenu dans son agrafe était d'environ 18 sols, et le dit tabletier, attendu que le dit portefeuille était tout aussi bon que lorsqu'il sortit pour la première fois de sa boutique, n'en aurait pas donné pour l'or un sol de plus. Une personne prudente aurait pu en conséquence profiter adroitement de l'ignorance du pauvre et ne lui aurait pas offert plus d'un shilling ou peut-être un demi-shilling. Quelques-uns même peut-être ne lui auraient rien donné du tout et ne lui auraient laissé que son droit de trouvaille, droit que quelques huissiers instruits doutent qu'il eût pu faire valoir dans la position où il était. Mais Jones, dont le caractère était d'outrepasser la générosité, et que sans injustice on aurait pu soupçonner d'extravagance, lui donna sans hésiter une guinée en échange du portefeuille. Le pauvre homme, qui depuis bien longtemps ne s'était trouvé le maître d'un aussi riche trésor, fit 1000 remerciements à Jones, et les muscles de son visage laissèrent apercevoir une joie presque aussi vive que celle que Jones venait de ressentir en lisant le nom de Sophie Weston. Ce malheureux consentit très volontiers à accompagner nos voyageurs à l'endroit où ils avaient trouvé le portefeuille. Ils y allèrent donc ensemble sur le champ, mais pas aussi vite que Jones l'eût désiré, car son guide avait encore le malheur d'être boiteux, et ne pouvait pas faire plus d'un mille par heure. Or, comme malgré l'assurance qu'il en avait donnée, l'endroit en question était à plus de 3 000 de distance, nous n'avons pas besoin de dire au lecteur combien de temps ils mirent à faire le chemin. Jones ouvrit le portefeuille 100 fois pendant la route, le baisa tout autant de fois, se parla beaucoup à lui-même et parla fort peu à ses compagnons. Le guide témoigna sur tout cela quelque étonnement à Partridge, qui secoua plus d'une fois la tête en disant « Le pauvre jeune homme, orandum est ut sit mens sana in corpore sano. Prions qu'il ait l'esprit aussi sain que le corps. » Enfin, ils arrivèrent au lieu où Sophie avait malheureusement laissé tomber le portefeuille et où l'homme l'avait heureusement trouvé. Jones alors se disposa à prendre congé de son guide et à doubler le pas, mais celui-ci, dans l'esprit duquel la vivacité de la surprise, de la joie qu'il avait ressentie d'abord en recevant la guinée, était pour lors considérablement amorti, et qui avait eu assez de temps pour revenir à lui, prit un air mécontent, et dit, en se grattant la tête, qu'il espérait que monsieur lui donnerait quelque chose de plus. « Monsieur, ajouta-t-il, voudra bien prendre en considération que si je n'avais pas été un honnête homme, j'aurais fort bien pu garder le tout. » Et en effet, le lecteur doit avouer que rien n'était plus vrai. Si le papier que vous tenez vaut 100 livres, il est sûr que celui qui l'a trouvé mérite plus d'une guinée. D'ailleurs, supposez que monsieur ne doive jamais revoir la dame, et ne puisse conséquemment le lui rendre. Et quoique monsieur ait bien l'air et le langage d'un gentilhomme, je n'ai que la parole de monsieur. Et certainement, si la propriétaire légitime ne peut pas se trouver, le portefeuille appartient tout entier à celui qui l'a trouvé le premier. J'espère que monsieur voudra bien considérer tout cela. Je ne suis qu'un pauvre homme, c'est pourquoi je ne désire pas avoir tout. Mais il est bien raisonnable que j'en ai ma part. Monsieur a l'air d'un honnête homme, et voudra bien, j'espère, avoir égard à mon honnêteté. Car j'aurais pu garder jusqu'au dernier sol, sans que jamais on en eût rien su. Je te promets sur mon honneur, répondit Jones, que j'en connais la propriétaire légitime. Et que je le lui rendrai. Quant à cela, reprit le pauvre, monsieur peut faire tout ce qu'il lui plaira. Et s'il veut me donner seulement ma part, c'est-à-dire la moitié de l'argent, monsieur peut garder le reste si cela lui fait plaisir. Il conclut en jurant ses grands dieux qu'il n'en prononcerait jamais une parole à aucun homme vivant. Je vous réponds, mon ami, lui dit Jones, que la propriétaire légitime aura dans toute son intégrité le portefeuille qu'elle a perdu. Quant à une gratification plus considérable, je ne puis réellement vous la donner à présent. Mais dites-moi votre nom et votre adresse, et il est extrêmement probable que vous aurez par la suite de nouveaux motifs de vous réjouir de l'aventure de ce matin. Je ne sais, dit le pauvre, ce que vous entendez par aventure. Il me semble que c'est moi qui mets à l'aventure si vous remettrez ou non à la dame l'argent qui lui appartient. Mais j'espère que monsieur fera attention. Allons, allons, dit Partridge. Dites à monsieur votre nom et votre adresse, et je vous garantis que vous ne vous repentirez pas d'avoir remis cet argent entre ses mains. » Le pauvre, ne voyant plus l'espérance de recouvrer la possession du portefeuille, consentit enfin à donner son nom et le lieu de sa résidence, que Jones écrivit sur un morceau de papier avec le crayon de Sophie. Puis, plaçant le papier à la même page où elle avait écrit son nom, il s'écria « Maintenant, mon ami, vous êtes l'homme le plus heureux qui existe. J'ai joint votre nom à celui d'un ange. » « Je ne connais rien aux anges, répondit le pauvre. Mais je voudrais que vous me donniez un peu plus d'argent ou que vous me rendiez le portefeuille. » Partridge alors se fâcha tout de bon. Il donna au pauvre impotent les noms les plus vils et les plus injurieux. Il se disposait même décidément à le battre, mais Jones ne voulut pas le souffrir. Et après avoir dit au pauvre qu'il trouverait certainement quelque occasion de lui rendre service, il s'éloigna aussi rapidement qu'il lui fut possible. Partridge, à qui l'idée des 100 livres sterling avait rendu de nouvelles forces, suivit son maître. Cependant, le pauvre boiteux, qui était obligé de rester derrière, se mit à les maudire tous deux, ainsi que ses pères et mères. Car, disait-il, s'il m'avait envoyé à l'école de charité pour apprendre à lire, à écrire et à compter, j'aurais su, aussi bien qu'un autre, la valeur de ces sortes de choses-là. Chapitre 5. Contenant la suite des aventures de M. Jones et de son compagnon sur la route. Nos voyageurs marchaient si vite qu'ils n'avaient ni assez de temps, ni assez d'haleine pour faire la conversation. Jones pensait à Sophie et Partridge au billet de banque, qui, quoiqu'il lui fît quelque plaisir, lui donnait lieu en même temps de murmurer contre la fortune qui, dans ses voyages, ne lui avait jamais fourni une occasion semblable de montrer son honnêteté. Ils avaient fait plus de 3 000 quand Partridge, hors d'état de suivre Jones plus longtemps, invoqua sa pitié et le pria de ralentir un peu son pas. Il y consentit d'autant plus volontiers que depuis quelque temps il avait perdu toute trace de voiture et de chevaux, que le dégel lui avait permis de suivre pendant quelques milles, et qu'il se trouvait alors sur une vaste commune traversée par plusieurs routes. Il s'arrêta donc pour considérer laquelle il prendrait, quand tout à coup ils entendirent le son d'un tambour qui ne paraissait pas fort éloigné. Ce bruit fit revivre aussitôt les craintes de Partridge, qui s'écria « Bonté divine, ayez pitié de nous, les voilà certainement qui viennent !»« Qui donc ?» dit Jones, car des idées plus douces avaient depuis longtemps chassé la crainte de son esprit, et notamment depuis son aventure avec le pauvre boiteux, il était uniquement occupé du soin de rejoindre Sophie. « Qui ?» s'écria Partridge. « Les rebelles !»« Mais pourquoi les appellerais-je les rebelles ? Ils peuvent être de fort honnêtes gens. Je ne sais rien qui puisse me faire croire le contraire. Que le diable emporte quiconque les injurie, je ne dis que cela. Je proteste que s'ils n'ont rien à me dire, je n'ai de mon côté rien à leur dire, que des choses très honnêtes. Pour l'amour de Dieu, monsieur, ne les offensez pas s'ils viennent, et peut-être ils ne nous feront aucun mal. Mais ne serait-il pas plus sage de nous fourrer dans quelques-uns de ces buissons là-bas, jusqu'à ce qu'ils soient passés ? Que peuvent deux hommes désarmés contre 50 000 peut-être ? Certainement, il n'y a qu'un fou. J'espère que monsieur ne s'en offense pas, mais certainement nul homme qui a mens sana incorpore sano. Jones interrompit ce débordement d'éloquence inspiré par la peur, en disant que le tambour lui faisait juger qu'ils étaient près de quelque ville. Il marcha alors droit au lieu d'où venait le bruit, engageant Partridge à prendre courage, lui promettant de ne lui faire courir aucun danger, et ajoutant qu'il était impossible que les rebelles fussent aussi près. Cette dernière assurance soulagea un peu Partridge, et quoiqu'il eût pris plus volontiers le chemin contraire, il suivit son guide, son cœur battant la mesure, non comme celui d'un héros, et accompagnant le bruit du tambour, qui ne cessa pas jusqu'à ce qu'ils eussent traversé la commune et fussent entrés dans un sentier étroit. Alors Partridge, qui marchait le même pas que Jones, découvrit quelque chose de pin qui flottait dans l'air à fort peu de distance devant lui. Croyant y distinguer les couleurs des drapeaux ennemis, il se mit à beugler. « Oh Seigneur, monsieur, les voici. Voilà la couronne et le cercueil. Oh Seigneur, je n'ai jamais rien vu de si terrible. Nous sommes déjà à la portée du fusil. » Jones n'eut pas plutôt levé les yeux qu'il aperçut clairement ce qui faisait la méprise de Partridge. Partridge, lui dit-il, je vous crois capable de combattre l'armée tout entière à vous tout seul. Car, aux couleurs du drapeau, je devine maintenant ce que c'est que le tambour que nous venons d'entendre, et qui bat sans doute pour appeler les curieux à quelque spectacle de marionnettes. Des marionnettes, répondit Partridge, avec la plus grande vivacité. N'est-ce réellement que cela ? De tous les plaisirs du monde, ce sont les marionnettes que j'aime le plus. Oh, monsieur, vous êtes si bon ! Arrêtons-nous pour les voir. D'ailleurs, je suis presque mort de faim, car il est nuit tout à l'heure, et je n'ai pas mangé un morceau depuis 3 heures du matin. » Tout en disant ces mots, ils arrivèrent à une auberge, ou plutôt à un cabaret, dans lequel Jones consentit à s'arrêter, d'autant plus qu'il n'avait aucune certitude d'être dans la route qu'il désirait suivre. Ils entrèrent aussitôt tous les deux dans la cuisine, où Jones s'informa s'il n'était pas passé des dames dans la matinée. Partridge examina avec non moins de soin l'état des provisions et, il faut en convenir, le résultat de ses recherches fut plus heureux, car Jones ne put apprendre de nouvelles de Sophie, tandis que Partridge, à sa grande satisfaction, trouva de bonnes raisons pour espérer jouir dans peu de l'agréable vue d'une excellente omelette au lard. Dans les tempéraments forts et bien constitués, l'amour a un effet tout différent de celui qu'il produit sur les gens chétifs. Dans ces derniers, il détruit généralement l'appétit qui tend à la conservation de l'individu. Mais dans les premiers, quoique souvent il fasse oublier et négliger, ainsi que tout le reste, de prendre de la nourriture, essayez de placer devant un amant bien affamé une bonne pièce de bœuf cuite à point, et vous verrez qu'il manquera très rarement de jouer son rôle à merveille. C'est ce qui arriva dans le cas dont il s'agit. Car quoique Jones eût peut-être besoin que quelqu'un l'y fît penser, quoiqu'il eût pu, s'il eût été seul, voyager encore plus loin avec l'estomac vide, on ne lui eût pas plutôt servi l'omelette qu'il tomba dessus d'aussi bon cœur et avec autant de voracité que Partridge lui-même. Avant que nos voyageurs eussent fini leur dîner, la nuit survint, et comme la pleine lune était passée, il faisait extrêmement noir. Partridge n'eut donc pas de peine à obtenir qu'il resterait pour voir les marionnettes qui allaient commencer à l'instant, et auxquelles ils furent invités avec beaucoup d'empressement par le directeur du spectacle, qui assura que ces figures étaient les plus belles que le monde eût jamais produites, et qu'elles avaient paru avec le succès le plus flatteur devant tous les grands et les seigneurs d'Angleterre, dans toutes les villes où il avait passé. Les marionnettes furent jouées selon toutes les règles et avec toute la décence possible. On demanda les scènes les plus belles et les plus sérieuses de la comédie du mari poussé à bout. Et c'était en effet un spectacle très grave et très sérieux, sans esprit, sans gaieté, sans plaisanterie, sans rien de bas, enfin, pour ne pas outrer la sévérité, sans rien de ce qui peut provoquer le rire. Tout l'auditoire fut extrêmement content. Une grave matrone dit au directeur qu'elle amènerait le lendemain soir ses deux filles, puisque son spectacle n'avait rien d'indécent. Un clerc de procureur et un commis de la ferme déclarèrent tous deux que les rôles de Lord et Lady Townley étaient très bien rendus et parfaitement dans la nature. Partridge fut aussi de cette opinion. Le directeur fut si glorieux de ses éloges qu'il ne put s'empêcher d'y en ajouter encore quelques-uns de sa façon. Il dit que dans le siècle présent, rien ne s'était autant perfectionné que les marionnettes, que par la réforme absolue de Polichinelle, de sa femme Madame Gigogne, et de toutes les autres bêtises de cette espèce, elles étaient enfin parvenues à devenir un spectacle raisonnable. « Je me souviens, dit-il, que lorsque j'ai commencé mon entreprise, on disait beaucoup de sottises du genre le plus bas, fort bien imaginées pour faire rire le peuple. Mais rien ne tendait à améliorer la morale des jeunes gens, ce qui certainement doit être le but principal des marionnettes. Car pourquoi ce moyen ne réussirait-il pas aussi bien que tout autre à donner des leçons sages et instructives? Mes figures sont grandes comme nature et représentent toutes les actions de la vie. Aussi je ne doute en aucune manière qu'on ne tire de mon petit spectacle autant de profit pour les mœurs que des grands théâtres. « Je n'ai assurément pas le projet, répondit Jones, de dépriser le mérite de votre profession. Mais avec tout cela, j'aurais été charmé de revoir mon vieil ami, M. Polichinelle, et en le réformant, ainsi que sa joyeuse femme, Madame Gigogne, je trouve que loin d'avoir perfectionné vos marionnettes, vous les avez absolument gâtées. Le maître à danser des fils d'Archal conçut à ces mots un souverain mépris pour Jones. » Il lui répliqua de l'air le plus dédaigneux, « Très probablement, monsieur, c'est là votre opinion, mais j'ai la satisfaction de savoir que les meilleurs juges en diffèrent entièrement, et il est impossible de plaire à tout le monde. Je conviens à la vérité qu'il y a 2 ou 3 ans, étant à Bath, quelques personnes de qualité me pressèrent instamment de remettre Polichinelle sur la scène. Je crois même que j'ai perdu quelque argent à n'y pas consentir. » Mais que les autres fassent ce qu'ils voudront, un peu de métal ne me corrompra pas au point de me faire dégrader ma profession. Et je ne consentirai jamais volontairement à souiller un théâtre aussi décent et aussi régulier que le mien en y introduisant des sottises d'un genre aussi bas. Vous avez raison, mon ami, s'écria le clerc de procureur, vous avez grandement raison. Évitez toujours ce qui est bas. J'ai plusieurs de mes amis à Londres qui ont résolu d'épurer le théâtre de tout ce qui est bas. Et rien n'est plus convenable, s'écria à son tour le commis de la ferme, en ôtant sa pipe de sa bouche. Je me rappelle, ajouta-t-il, car je demeurais alors chez mon maître, que j'étais à la galerie des laquais, le jour où l'on donna pour la première fois cette comédie du mari poussé à bout. Il y avait un tas de sottises du genre le plus bas, au sujet d'un gentilhomme campagnard, venu à la ville pour y demeurer en qualité de membre du Parlement. et voilà qu'ils font paraître sur le théâtre une partie de ses valets. Je me rappelle son cocher, entre autres. Mais nos messieurs de la galerie où j'étais ne purent s'offrir quelque chose d'aussi bas, et ils le sifflèrent. J'observe, mon ami, que vous avez supprimé tout cela, et vous méritez qu'on vous en félicite. « Fort bien, messieurs, dit Jones. Je ne pourrai jamais soutenir mon opinion contre tant de monde. Il est sûr que si la plus nombreuse partie de l'auditoire n'aime pas Polichinelle, le savant directeur du spectacle peut avoir très bien fait de lui donner son congé. » L'homme aux marionnettes commençait alors un second discours où il dit beaucoup de choses sur la grande force de l'exemple et cherchait à prouver avec quelle facilité les inférieurs seraient détournés du vice si on leur faisait constamment observer combien il est odieux dans leur supérieur, quand il fut malheureusement interrompu par un incident que nous aurions peut-être omis dans un autre temps, mais que nous ne pouvons nous dispenser de raconter en ce moment. Ce ne sera cependant pas dans ce chapitre.